grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. La psychologie doit-elle avoir une obligation de résultat, viser l'efficacité? C'est ce que défend notre invitée, la psychologue Jeanne Siofachin. Pour elle, la psychologie s'est perdue et a trop vite vieilli. Elle milite pour une nouvelle psychologie, totalement engagée auprès des patients et qui ne réduit pas l'individu à son passé. Une nouvelle approche qui, je la cite, sort des ornières de l'archéologie de la souffrance. Cette nouvelle psychologie qui devrait nous aider à vraiment aller mieux, à devenir ce que l'on est, selon une maxime attribuée à Nietzsche. Nous verrons ce matin quels sont les fondements de cette nouvelle psychologie. Peut-être pas si neuf que ça, nous dira la journaliste de Psychologie Magazine, Christina Pelédouel. Vous pouvez réagir, poser vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
On retrouve tous les vendredis votre esprit d'escalier. Et ça tombe bien, ce matin, vous avez fait des études de psychologie. Vous avez de tas de choses à nous dire ce matin.
Oui, ça tombe pas si mal. Surtout, on est vendredi, je suis un petit peu fatiguée, je pense que je vais m'allonger sur un divan pour ma part.
Je reçois des messages de fans éplorés face aux absences d'Éric Libio. Rassurez-vous, notre breton bougon mais gentil sera de retour vendredi prochain. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour Jeanne Siofachin.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous publiez chez Odile Jacob « S'il te plaît, aide-moi à vivre ». Alors Pierre Gréco, dans son article de l'Encyclopédie Universalis consacré à la psychologie, nous dit qu'il faut renoncer à assigner un objet à la psychologie tant le champ est vaste et qu'il vaut mieux parler des psychologies. Toutefois, pour vous, la psychologie doit nous permettre, je vous cite, de comprendre qui l'on est pour savoir où l'on va, comprendre ce qui nous anime, ce qui met notre âme en mouvement pour donner une direction et une trajectoire.
Oui, la psychologie, c'est quand même son objet. C'est-à-dire que la psychologie est une science humaine, certes, mais une science qui doit, bien sûr, s'enraciner dans ce qu'on comprend et dans ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement de l'être humain, que ça soit au niveau de ses comportements, mais aussi au niveau de son cerveau. Les neurosciences nous ont quand même très largement éclairés pour nous permettre de mieux nous saisir de ce fameux inconscient, qui n'est peut-être plus tout à fait l'inconscient de Freud, mais un inconscient qui, bien évidemment, emmagasine il est ce grand chef d'orchestre qui guide nos vies, mais je crois que l'intention de la psychologie, l'intention de cette psychologie d'aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur quels sont ces rouages de cet inconscient, c'est-à-dire ce qui nous anime en termes d'émotions, en termes d'habitudes de comportement, en termes de valeurs, en termes de qu'est-ce qui nous fait bouger, pourquoi on bouge de telle ou telle façon, bouger dans la vie, j'entends, hein, évidemment, et que c'est très important de pouvoir se saisir de ça, parce que quand je parle de nouvelle psychologie, je ne parle pas d'une nouvelle école, mais d'une nouvelle posture.
L'une des missions que vous assignez à la psychologie, c'est de nous amener de l'autre côté de la peur.
Oui, parce que je pense qu'on a tous peur. On a tous peur, on met en place mille et une stratégies pour le dissimuler. Mais je crois que finalement, ce qui nous anime au fin fond de notre âme, vous avez introduit ce mot en introduction, au creux de nous, c'est qu'on a peur. On a peur de mille et une choses, mais on a des peurs très existentielles. Enfin, je pourrais presque dire, même en étant vendredi, que finalement, on est là, dans cette vie, un peu tendu sur un fil, entre le moment où on est arrivé au monde et le moment où on va mourir. Et entre les deux, il faut se dépatouiller et se débrouiller pour vivre. Et je crois vraiment que c'est la mission de la psychologie de nous aider à traverser cette vie. Parce que la psychologie, c'est vraiment la colonne vertébrale qui construit nos vies.
Et l'une des missions de la psychologie, pour vous, c'est de nous permettre d'accoucher d'un être humain, pleinement humain. Humain, pleinement humain, c'est un peu une tautologie.
Oui, mais parce que je pense qu'on oublie beaucoup qu'on est des êtres humains de chair et d'âme et qu'effectivement, à partir de là, on a besoin d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui nous construit, sur ce qui nous constitue, pour aussi, pleinement humain, quand je dis ça, c'est aussi cette idée de vulnérabilité. On parlait de peur il y a un instant. C'est très important de ressentir sa propre vulnérabilité. On essaye aussi beaucoup de la camoufler, cette vulnérabilité. Et moi, j'ai besoin d'aider mes patients, et c'est beaucoup ce dont je parle dans mon livre, d'aider mes patients à toucher cette vulnérabilité, parce que dans cette vulnérabilité, il y a un pouvoir et une force inouïe. Et il ne faut pas s'éloigner de la vulnérabilité, parce que c'est ça qui nous rend justement pleinement humains et qui nous permet de nous sentir reliés aux autres.
Alors
c'est notre part d'humanité.
Dans votre nouveau livre, vous plaidez donc pour une nouvelle psychologie. Si vous parlez de nouvelle psychologie, c'est que vous vous référez à une ancienne psychologie. Expliquez-nous votre démarche.
Ma démarche, en fait, ma démarche, elle est ancrée dans ma pratique qui, à force, est assez longue, on va dire ça comme ça, et où finalement, et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré le titre de ce livre, c'est que finalement, je trouve...
S'il te plaît, aide-moi à vivre.
Voilà, je trouve très touchant les patients, qu'ils aient 5 ans ou 95 ans, qui viennent se poser dans le cabinet d'un psy, en face d'un psy, et qui finalement témoignent d'une forme d'incroyable humilité en disant, ben voilà, en fait, dans le fond, j'y arrive pas. J'y arrive pas en tant que parent, j'y arrive pas en tant qu'adulte, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me donne la main, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de remettre de l'ordre dans le chaos de mon existence, de ma pensée, de mes ressentis. Et je trouve que c'est incroyablement touchant de venir finalement, parce que personne dit s'il te plaît aide-moi à vivre dans une consultation, mais dans le fond c'est ce qui traverse toutes les consultations, c'est cette demande d'aide muette, mais si forte. Et moi, ça me touche incroyablement, ça.
Et vous plaidez pour une psychologie qui, je vous cite, sort des ornières de l'archéologie de la souffrance. Expliquez-nous.
Bah oui, parce que en fait, je trouve que c'est très important. Évidemment, le passé nous construit, mais le passé ne nous définit pas. Et on peut, d'ailleurs, quand on dit passé, comme de façon très spontanée, on pense au passé de sa petite enfance. Et le passé, quand on réévoque le passé, quel qu'il soit, on ne le réévoque jamais percé, enfin, pour ce qu'il a été. On le remanie avec ce que l'on est aujourd'hui. Et là, on le sait très bien, justement, avec les neurosciences. C'est-à-dire qu'au moment où on réévoque un souvenir, on le reconstruit avec le cerveau tel qu'on l'a aujourd'hui, avec toutes les expériences qu'on a eues ensuite. Et plus on le réévoque, plus on l'ancre dans les sillons de notre mémoire. Donc finalement, aller creuser en permanence pour aller chercher l'origine de la souffrance que l'on a, ancre cette souffrance, si elle existe, de façon encore plus profonde que ce qu'elle était auparavant. Et puis quand même, personne n'a aujourd'hui démontré que d'évoquer cette souffrance originelle, soi-disant, viendrait soulager.
On y reviendra tout à l'heure. Christine Appel-Edouelle de Psychologie Magazine, vous avez lu le livre de Jeanne Siofachin.
Oui, je l'ai lu. Alors, je trouve que c'est un livre très sympathique, énergique, comme son auteur. Voilà, on a envie de le lire, mais je n'ai pas été complètement convaincue.
Tant mieux.
Je vais vous dire en deux mots et puis après on va développer au cours de l'entretien. La première chose, c'est que vous proposez une nouvelle psychologie, puisqu'on en revient au titre. Or, ça m'a pas semblé nouveau du tout. Je n'ai rien trouvé qui soit véritablement nouveau. Vous parcourez le champ des différentes disciplines de la psy, la psychanalyse. Enfin, vous faites une recension des différentes méthodes les plus connues. La psychologie positive, la psycho-intégrative qui est assez rapidement traitée. Et je n'ai rien vu dans ce que vous proposez qui soit véritablement... Moi, je m'attendais à quelque chose de révolutionnaire. Quand j'ai ouvert votre livre, je me suis dit, chouette, je vais apprendre des choses. Ce que je fais, j'ouvre des livres de psy à longueur de journée.
Bien sûr.
Et je me suis dit, je vais apprendre des choses. Et tant mieux, je suis contente, j'ai hâte de savoir. Et finalement, non, c'est intéressant. Pour le lecteur qui n'est pas au courant, qui n'est pas plongé en permanence dans la psy, bien sûr qu'il va découvrir des choses. Tout le monde ne sait pas, en effet, ce qu'est la psycho-intégrative, ni ce qu'est la psychologie positive, qu'on confond souvent avec la pensée positive. Voilà. Mais, non, vous parlez beaucoup de la psychologie humaniste, que vous rejoignez aussi avec la psychologie intégrative et la psychologie positive, mais tout ça ne m'a pas vraiment paru nouveau. Je n'ai rien appris de neuf.
Jeanne Siofachin.
Oui, mais merci pour cette critique constructive, parce que il s'agissait pas du tout de faire du neuf, et la nouvelle psychologie, comme je le disais il y a un instant, c'est plus une façon d'être engagé dans la psychologie. C'est une nouvelle posture, c'est pas une nouvelle école. Donc il s'agissait pas du tout de proposer une nouvelle, un nouveau mode de pensée, un nouveau courant de pensée, un nouveau paradigme.
C'est un peu ce que laisse penser votre titre. Alors oui, peut-être que la faute en est au titre, je ne sais pas.
Alors
c'est
non, mais c'est pas une question de faute, c'est une question de dynamique. C'est-à-dire que moi je trouve que aujourd'hui, c'est ce à quoi un patient qui va consulter un psy doit pouvoir s'attendre à ce que le psy soit engagé, soit efficace, Ali Rebbi le disait il y a un instant, et comprenne ce qu'il peut attendre et comprendre et comment il peut s'emparer des connaissances et des compétences de la psychologie. C'est ça mon objet, c'est le grand public.
Oui.
C'est pas
j'ai bien compris. Mon
public, c'est le grand public. C'est-à-dire, moi, je veux expliquer aux gens, voilà ce que c'est la psychologie, oui. Et voilà comment vous pouvez vous en emparer.
Certes,
et voilà ce que vous devez en attendre.
Oui, j'ai bien compris. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire, d'une manière générale, que les psys, au sens large, hein, thérapeutes, psychanalystes, psychothérapeutes, ne soient pas engagés. Je ne pense pas. Je pense que quand vous entrez dans un cabinet, le psy est engagé dans un travail avec son patient.
On reviendra sur cette question tout à l'heure.
C'est une question centrale. Hein.
Oui, on va y revenir. Le regard de Guillemette Audicino.
En fait, moi, ce que je trouve, disons, neuf, c'est votre total... vous êtes complètement décomplexé, justement, avec cette notion d'engagement. Moi, alors, dans mes études, mais même dans tout ce qu'on a lu et de ce qu'on sait... entre autres de la psychanalyse, mais même quand on emmène son enfant chez un psychothérapeute, par exemple, il y a toujours cette notion, cette mise en garde de « attention, une distance, je ne vais pas être trop empathique, le but n'est pas là », ou « je vous écoute, évidemment, en m'asseyant derrière vous », ou « je reste derrière mon bureau », en laissant
moins,
vraiment... si, ça existe encore.
Ça existe moins,
mais
franchement.
Même un psychologue va quand même annoncer, mettre les parents à la porte du bureau, enfin des choses de ce genre. Ce que vous, alors je, honnêtement, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais ce que vous avez l'air de revendiquer, c'est quelque chose de quasiment charnel, c'est-à-dire
oui.
un engagement. On prend la main d'eux, on est à la limite du hug avec son patient. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais c'est la chose que j'ai vue d'un petit peu neuve, c'est ça. C'est décomplexé par rapport à mon patient et quelqu'un que j'aime et je le lui dis.
On y reviendra tout à l'heure, Jeanne Chauffache. On va revenir à ces questions de l'engagement qui sont absolument essentielles, vous le disiez, Christy Lapelle-Edouel. Nous attendons vos questions et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Alors hier, nous avons consacré une émission aux bienfaits des agrumes et vous nous avez réclamé les recettes que nous avons évoquées. André Zanamura nous a transmis ses recettes fétiches. C'est disponible sur le site et l'appli France Inter à la page Grand Bien vous fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Nicolas Beauve, à la réalisation Stéphanie Texier. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn idle today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up to down. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up to down. No milk today, my love has gone away. The bottle's down.
which means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day.
Herman's Hermits, interprété Nomic Today, c'est en 1966 et vous n'étiez pas né, Guimet Odissino. Enfin, je crois.
La psychologie, il n'y en a qu'une. Des fois, il y a le premier.
Grand bien vous fasse.
C'est un peu sommaire, mais ça peut être efficace.
Sur France Inter.
10h23,
non, j'ai eu le temps de compter, j'étais pas née. Hein.
Une question ce matin, la psychologie doit-elle avoir une obligation de résultat? Doit-elle viser l'efficacité pour nous aider à mieux vivre? Nous recevons la psychologue Jeanne Siofachin et la journaliste de Psychologie Magazine, Christina Pelédouel. Question-réaction au 01 45 24 7000.
Écoute, je voudrais que tu me rendes un service d'ami.
Ouais, t'as qu'à dire.
Sois sympa, trouve-moi un toubib.
Mais on vient juste d'en voir
un. Non, pas un toubib comme ça, un toubib pour la tête.
Quoi, tu veux changer de gueule comme Sonny Black? Mais tu vas pas te faire le même nez que lui, il ressemble à un porc.
Mais je ne cherche pas un chirurgien, faut toujours te mettre les points sur les i.
Bah, ça irait plus vite.
Le genre réducteur de tête, tu sais, genre psychiatre, quoi.
Tu veux dire un truc psychique, genre paranormal? Un truc paranormal, quoi, en gros. Je suis tombé sur un psychiatre, enfin, c'est lui qui est tombé sur moi.
Il avait l'air bon?
Ouais. Enfin, il avait l'air de s'y connaître. Il avait même une carte de visite.
Il avait une carte de visite. Oh, bah ça me rassure, ça doit être un bon.
Extrait de Mafia Blues. Et on espère pour le psy du mafieux Robert De Niro que sa thérapie sera efficace. Hein. Jeanne Siofachin, vous avez déjà eu des mafieux, vous, dans votre cabinet?
On finit par voir un certain nombre de patients un peu particuliers.
Alors, on va essayer de mieux comprendre les fondements de la nouvelle psychologie que vous défendez dans votre nouveau livre, S'il te plaît, aide-moi à vivre. Mais avant ça, vous écrivez que la psychologie s'est perdue. La psychologie, cette science nouvelle, mais qui a trop vite vieilli.
Oui, parce que en fait, effectivement, et là j'imagine qu'on sera pas tout à fait d'accord autour de cette table, mais je pense qu'effectivement la psychanalyse était une intuition géniale de Freud, de comprendre qu'effectivement cet inconscient était là et que, comme on le disait tout à l'heure, il avait une vraie incidence sur nos vies d'aujourd'hui, mais que petit à petit on s'est enfermé dans cette psychologie du passé où tout ce qu'on vivrait aujourd'hui serait déterminé par ce qu'on aurait vécu avant, et qu'il me semble qu'il faut sortir de là, parce que effectivement, dans le passé, d'abord, il n'y a pas que des conflits, des drames et des traumatismes. Dans le passé, il y a aussi des ressources. Et moi, je plaide beaucoup pour une psychologie des ressources. Et c'est très important d'aller aussi dans ce passé. On dit dans notre culture judéo-chrétienne qu'il faut porter sa croix, mais peut-être que ça serait intéressant de poser cette croix et de se rendre compte que dans cette croix, il y a aussi des pierres précieuses. Et moi, je crois que vraiment, c'est important que le passé soit un ingrédient de la psychothérapie, mais ça soit pas l'unique objectif.
Le premier fondement, justement, de votre nouvelle psychologie, c'est que l'individu ne se réduit pas à son passé, mais tout de même, le passé détient une grande influence sur nos vies d'aujourd'hui.
Oui, mais le passé de ce matin aussi, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans nos têtes et tout ce qu'on a évoqué et toute la façon dont on s'est comporté, toutes les émotions qu'on a vécues, a une incidence sur ce que je suis là tout de suite avec vous, ou comme vous, vous l'êtes par rapport à ce que vous avez vécu hier ou avant-hier. C'est-à-dire que, bien sûr que le passé, forcément, on ne peut être que le fruit de ce passé qui nous a construit, mais se définir en permanence en fonction de ce passé et aller alors très sincèrement, je vais vous dire très clairement ce que je pense, c'est-à-dire que d'aller passer des années allongées sur un divan pour raconter son passé et ressasser, au bout d'un moment, il me semble que c'est là où la psychologie s'est perdue, parce que la psychologie, c'est d'abord une science vivante, une science dynamique qui doit se réalimenter en permanence avec les connaissances d'aujourd'hui et avec ce qui peut permettre de transformer. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation qui est nécessaire.
Et vous êtes très clair, hein, pour vous, la psychanalyse est périmée au vu des besoins et des demandes actuelles.
C'est-à-dire que la psychanalyse, elle peut éventuellement permettre de déambuler dans sa vie, mais je ne crois pas que ça soit aujourd'hui, en tout cas elle ne le montre pas, elle ne le prouve pas, et ce n'est pas très validé non plus, que la psychanalyse peut aider à aller mieux, à vivre mieux, en particulier quand on est en souffrance.
La psychanalyste Elisabeth Roudinesco peut nous appeler au standard si elle veut pour dialoguer avec Jeanne Siofachin.
Avec grand plaisir.
Christina Pelédouel.
Oui, alors pour parler de la psychanalyse. Je pense que c'est difficile d'opposer une psychologie que vous dites contemporaine, enfin d'aujourd'hui, à la psychanalyse. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire ce travail analytique qui peut être en effet, et je dis bien un travail parce que c'est bien ça dont il est question, c'est de travailler sur son propre fonctionnement, sur ce qui s'est passé, sans forcément être d'ailleurs toujours tiré vers le passé. Comme vous le dites, on travaille aussi sur ce qui se passe actuellement quand on est dans le cabinet d'un psychanalyste.
Avec l'éclairage, j'y passais beaucoup.
Oui, mais enfin pas uniquement. Et rien n'empêche de faire ce travail tout au long d'une vie, parce qu'on peut en effet, et ce n'est pas un signe d'échec, pas du tout, c'est juste le signe que c'est un trajet, un chemin, et rien n'empêche en même temps de faire un travail par ailleurs, TCC, ça peut être un travail en
TCC,
thérapie cognitive et comportementale. Mais vous parlez de travail, vous voyez, rien que ce mot.
Mais bien sûr.
Mais oui, mais je trouve que rien que ce mot, ça vient de tripalium, c'est un instrument de torture.
Non, pas seulement. Tripalium ne veut pas dire que instrument de torture.
En tout cas, je trouve que en psychanalyse, le temps dure trop longtemps, et moi, je trouve ça insupportable. Par exemple, avec des enfants, que on voit des enfants sans jamais très bien savoir pourquoi on les voit, sans jamais savoir quelle est la destination, qu'on mette, comme on le disait tout à l'heure, les parents en dehors du cabinet, qu'on leur dise ça avance avec votre enfant, qu'on ait cette distance par rapport au patient. Moi, je ne crois pas à cette distance. Moi, je crois à l'amour, je suis désolée, mais je crois à l'amour. Et l'amour, ça veut dire quoi? C'est se sentir profondément concerné par ce que vit et ce qu'est le patient. Et moi, je ne crois pas à la distance, aussi bienveillante soit-elle. Je n'y crois pas parce que d'abord, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se sont retrouvées pendant des années avec des psychanalystes sans fin et sans limite.
Guillemette Odissino.
Il y a deux choses. Je pense que ce rejet de la psychanalyse que là vous incarnez, mais qui est peut-être, tout à l'heure, il y a toujours eu des grands mouvements anti-psychanalytiques et puis c'est revenu, etc.
Mais je suis pas anti, hein.
Moi, je crois que ça dénote quand même quelque chose d'un peu embêtant. C'est que vous insistez sur la durée de la cure, disons, c'est toujours cette injonction à l'efficacité. Alors, certes, peut-être que une thérapie autre, comportementale, peut, en surface, aider à avancer, aider à ne pas gifler son voisin de métro, mais ça n'empêche effectivement que, sans doute, pour devenir ce qu'on est, ou en tout cas tenir vraiment droit, ou trouver la source, ce n'est pas une honte de vouloir chercher profondément la source d'un malaise. Il faut du temps, et ce n'est pas...
Non, mais je suis là où je suis
complètement... Il faut arrêter de dire le temps...
Je ne dis pas ça. Et parce que, attention, merci de me souligner ça, je ne dis pas ça. Il ne faut pas confondre efficacité et rapidité. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que justement, aujourd'hui, moi, très sincèrement, ce qui m'agace aussi beaucoup, c'est cette injonction au bonheur, c'est-à-dire, et ces thérapies à tout faire, et la psychologie qui, quelquefois, devient technicien de surface. Donc, la psychologie est une science noble, une science importante, qui doit s'enraciner et s'ancrer vraiment dans une complexité de l'être humain. Mais on doit toujours avoir cette intention que notre patient aille mieux. Et en particulier chez les enfants qui sont en plein développement, on n'a pas le droit d'attendre.
Mais il y a juste une petite chose en plus, c'est là vous avez vraiment l'air de dire, enfin vous exprimez ce besoin d'aider votre patient. Mais
oui.
Est-ce que ce n'est pas, pour le coup, toxique que vous vous proposiez à votre patient comme cette aide totalement empathique, cet amour? Parce que si là il y a échec et qu'il n'y a pas guérison... Là, c'est grave. Enfin,
c'est grave.
Mais parce que
quand on s'engage,
c'est dire à quelqu'un je vais t'aider.
Oui, mais je vais t'aider, ça peut tout à fait vouloir
la
dire.
La noblesse du psychanalyste, c'est de dire tu vas t'aider toi-même.
Oui, mais d'abord, moi, je trouve que ça, c'est très violent. C'est-à-dire de laisser le patient seul. Non, mais on n'est pas d'accord.
Oui. Ah.
Donc, tout va bien. Tout va bien. Moi, je trouve que de laisser le patient seul, c'est très violent. Et moi, je plaide pour une psychologie où on co-construit avec son patient cet édifice de vie qui va être fait, bien sûr, du passé, du présent, de la compréhension de ce que la personne vit aujourd'hui, de ce dont il a besoin pour demain, de ce qui l'anime dans ses émotions, là, ensemble. Et de dire... je plaide pour l'efficacité, ça ne veut pas dire que je m'engage et on va aller vers le mieux-être à tout prix. C'est que si à un moment, c'est accepter sa toute-puissance, pardon, juste l'inverse. C'est accepter. Non, mais c'est important.
On le dit le mot
pour les psychanalystes, ça tombe bien. C'est trop joli, bravo. Non, mais accepter son. Non,
merci.
Non, mais pas merci. Soyons juste humbles, justement. La psychologie doit être humble. Et je crois qu'il faut accepter son impuissance. Il y a des moments où on n'arrive pas à aider comme on le voudrait. Il faut être capable de pouvoir réorienter le patient. Aider un patient et s'engager avec lui, ça ne veut pas dire le garder absolument et à tout prix avec soi. Ça veut dire aussi envisager avec lui ce qui pourrait lui faire du bien, y compris, pourquoi pas, oh, incroyable chose, la psychanalyse.
Et est-ce qu'on peut aimer tous les patients, tiens, justement ?
Eh ben alors, ça c'est une bonne question, Ali. Moi, oui, je crois qu'on peut aimer tous les patients parce qu'on peut aimer. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce mot amour, on aime les gâteaux au chocolat, on aime partir en vacances, on en parlait à l'instant. On aime plutôt la mer ou la montagne, on a le même mot. Oui, je crois qu'on doit aimer son patient dans le sens où on doit effectivement avoir un regard d'amour inconditionnel en lui disant « toi, voilà ». Tu es là et tu peux exister tel que tu es.
Jeanne Siofachin, dans votre ouvrage, vous militez pour les neurosciences affectives et sociales. Mmh. Et pour vous, ces neurosciences peuvent nous permettre de nous dégager du déterminisme du passé, grâce notamment à la plasticité neuronale.
Oui, c'est-à-dire que ça, on sait très bien aujourd'hui que effectivement, avant, on pensait que tout était joué. Je ne veux même pas dire le titre de ce livre qu'il faut absolument brûler, mais tout est jouable tout le temps, et ça justement les neurosciences, en particulier cognitives, mais aussi affectives, nous le montrent bien. C'est-à-dire que chaque fois qu'on emprunte une nouvelle façon de penser ou de ressentir, chaque fois qu'on prend un nouveau chemin, on transforme notre cerveau et on lui permet d'avoir les compétences et les capacités pour vivre la vie qui nous convient. Aujourd'hui.
Le passé ne doit pas nous définir ni nous conditionner. La psychologie doit nous aider à aimer notre passé. Et vous utilisez une image, le kintsugi, cet art délicat japonais qui consiste à réparer des bols en céramique avec de l'or. Et pour vous, au lieu de masquer les brisures, les fêlures, on les magnifie. Et la psychologie doit servir à ça, en s'appuyant sur le passé.
Oui, mais c'est pour ça que le passé est important, mais que le passé fait partie de notre histoire, et que dans le passé, effectivement, moi j'adore cet art japonais, où c'est magnifique, ensuite...
Le kintsugi.
Voilà, ces bols qui sont reconstitués avec les fêlures et qui sont remplis d'or. Parce que c'est ça qu'on est. On est ce que l'on est avec nos fêlures, et c'est important que nos fêlures brillent aussi, parce que c'est ce qui nous construit, c'est ce que l'on est intimement.
Et ne pas ressasser le passé, c'est une clé hein, pour vous.
Mais c'est-à-dire que plus on ressasse, c'est comme les anciens disent, hein, ça n'existe plus trop aujourd'hui, mais c'est que plus on creuse le sillon...
C'est plus difficile à dire qu'à faire, de ne pas ressasser son passé, de ne pas ruminer.
Mais c'est pour ça que je crois aussi et que l'entraînement à ressentir dans l'ici, maintenant, et être pleinement présent à ce que l'on vit, et pouvoir revenir à soi le plus possible, parce qu'effectivement, de toute façon, aller dans le passé, on ira automatiquement. Anticiper le futur, on le fera systématiquement. Mais de s'entraîner à se dire, comme faire une météo intérieure, se dire, tiens, là, qu'est-ce que je ressens ? Quel est l'état de mon corps, de mes émotions et de mes pensées ? Parce que ça permet finalement de faire des resets assez régulièrement pour se réajuster, parce que tout peut bouger. Tout peut bouger tout le temps, à chaque instant de nos vies, à partir du moment où on a cette visibilité. Et moi, je plaide pour cette visibilité. Et c'est ce que je crois que la psychologie du passé ne donnait pas suffisamment aux patients, où on était plus, effectivement, dans le fait de ressasser des choses qui s'étaient passées. Et par définition, le passé, eh bien, c'est passé.
Guillemette Odissimo.
Moi, ce qui me fait rire, c'est que encore faut-il le connaître, le bol, là, pour mettre de l'or dedans. Encore faut-il le connaître,
son
passé.
Oui, mais c'est le job de la psychologie.
Parce que dire ne pas ressasser son passé, ça veut dire ne pas ressasser ce dont on se souvient, dont on se dit, oh là là, quand même, papa, il était pas gentil.
Non, mais vous savez,
ou maman, elle me
méprisait
un brin. Sauf qu'il y a des choses, quand même, des blessures, et c'est là où,
bien sûr,
vais pas non plus faire l'apologie de la psychanalyse, mais il y a quand même des choses qui sont justement suffisamment et même hélas tragiquement enfoui, qui nous conditionne sans qu'on le sache. Donc ressasser, c'est simplement, il y a des moments, creuser, c'est tout, juste essayer de creuser un peu.
Eh ben oui, mais bien sûr, mais
pour réparer, faut connaître le mal quand même.
Oui, mais encore, est-ce que
connaître
le mal, ok, mais d'abord le mal, vous êtes d'accord que en fait on réinvente notre passé. En fait, on n'a pas de souvenir précis de ce qui s'est passé. On le réinvente beaucoup, le passé. On le sait aujourd'hui, et là pour le coup, à l'IRBI par les neurosciences, on le sait qu'on réinvente le passé. Donc oui, bien sûr, on peut aller chercher dans le passé et se dire oui, je suis comme ça parce que mon père m'aimait pas. Ah ben oui, j'arrive pas à construire un couple parce que le couple de mes parents n'était pas aimant. Et so what? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Aujourd'hui, on mobilise les ressources, y compris les ressources du passé, pour construire une vie qui nous ressemble, dans laquelle on se sent bien. Ça me paraît essentiel.
Il faut avoir la force de ce volontarisme.
Oui, bonjour, mais c'est le rôle du psy.
Bonjour Émilie, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous habitez à Saint-Germain-en-Laye. Alors, oui, vous avez envie de réagir à notre conversation ce matin?
Alors, je pense qu'en fait, il y a des avis divergents, mais tout se regroupe plus ou moins. Je souhaitais juste expliquer que j'avais fait une thérapie pendant... Quand j'ai rencontré ma psychothérapeute, je lui avais dit que je voulais faire une thérapie d'un an et demi, je voulais pas plus. Ça a duré 3 ans et demi, une partie en face-à-face, et après j'ai déménagé, donc on a continué sur Skype pendant un an. Et en fait, je lui ai demandé au tout début, je lui ai dit « Est-ce que vous allez m'aider à enlever toutes ces souffrances ?» Elle m'a dit « Non, je vais vous apprendre à vivre avec. » Et effectivement, ce que je n'ai pas retenu les noms, excusez-moi, ce que
le
dit
bon
madame
japonais
dans son livre, c'est que elle dit qu'il faut pas forcément ressasser le passé. Moi, je trouve que d'avoir mis une image, d'avoir mis des mots sur ce qui me faisait mal, après, je suis une visuelle, donc c'est peut-être, avec moi, ça a marché dans ce sens. Le fait d'avoir mis une image et des mots sur ce qui m'a fait mal, j'ai réussi à les comprendre et aujourd'hui, j'ai ressassé le passé, j'ai compris ce qui m'a fait mal et j'arrive à vivre avec, en fait. J'ai dégagé une force de tout ça, j'ai pris confiance en moi et cette psychothérapeute qui est, avec qui je garde contact régulièrement, mais plus par des messages amicaux pour donner des nouvelles. J'étais contente et je lui ai dit par moi-même, j'ai eu le courage de couper cette dépendance que j'ai pu, parce qu'on a tous plus ou moins une dépendance avec notre psychothérapeute. Et elle m'a donné la force, la confiance en moi. Et aujourd'hui, je lui ai dit, c'est bon, au bout de 3 ans et demi, j'arrête, je n'ai pas envie que ça dure plus longtemps. Et elle a compris, je pense qu'après, j'ai trouvé une bonne personne avec qui j'ai fait ce travail, mais... Voilà.
Témoignage très éclairant d'Émilie. Merci beaucoup, Émilie. Jeanne Chauffachin sur ce témoignage.
Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec, une fois encore, l'intention de la psychologie, c'est de retrouver de l'espace en soi, c'est-à-dire de dégager de l'espace, de dégager une forme de clairière dans la jungle de nos pensées, de nos émotions, de notre passé, de nos difficultés, de nos blessures, pour avoir cette liberté de vivre et de fonctionner comme on en a besoin aujourd'hui. Moi, je crois que c'est très intéressant d'être dans l'opposition, mais pour moi, il n'y a pas d'opposition, il y a une intégration justement. C'est-à-dire que le passé fait partie, évidemment, de nos vies. Comment on pourrait dire le contraire? Enfin, ça serait totalement ridicule. Mais le passé fait partie de nos vies de façon active et de façon mobilisable pour le transformer en ressources dont on a besoin maintenant.
Priscilla Pelledouel.
Oui, c'est le but de toutes les thérapies, y compris de la psychanalyse. Freud disait que la psychanalyse a juste pour but de nous permettre de travailler et d'aimer. Donc, c'est le but, en effet, de toutes les thérapies, de nous aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir prendre
notre
vie.
Oui, mais on peut pas rester à Freud, il faut quand même
Je ne reste pas à Freud, je dis seulement que c'était aussi...
On est 200 ans après, quand même.
Non, mais alors, on est 200 ans après un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un bon à jeter.
Message, et merci beaucoup, Émilie, d'avoir appelé. Message très contrasté, vous concernant Jeanne Chauffachin. J'admire Jeanne Chauffachin. Je pense qu'elle a tout compris sur les patients en grande souffrance, pour qui l'empathie est essentielle, vitale. Et puis, Michel qui nous dit, j'ai l'impression d'entendre une scientologue. Bon.
Je sais pas très bien ce que ça veut dire.
Ouais, bon, propos sectaire, mais bon, voilà, c'est des propos très contrastés ce matin. Vous pouvez continuer à témoigner au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Alors, je vous rappelle que mardi prochain, vous pourrez assister à la grande conférence France Inter consacrée au cerveau avec Mathieu Vidard et le neurologue Lionel Nakache. C'est à 20h depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et c'est diffusé dans une centaine de cinémas partout en France. Vous saurez tout mardi prochain sur les secrets de la concentration et de l'attention. Tous les renseignements sur le site de France Inter.
Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Tout ne meurt pas en un soir, non. Ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. C'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume
est dans tout ce que nous fûmes. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fûmes. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fûmes. Nous avons tous les mêmes prisons, les mêmes désirs à faire naître avant de tout faire disparaître au cours. L'heure triste des maisons, dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners. Nous avons tous ce vide immense, ce sourire pâle à maquiller. Mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout. De nos mains trop lentes à écrire le sens caché de notre histoire. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume.
Radio Elvis interprétait ce qui nous fume.
Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
11h moins le quart, la psychologie doit-elle nous aider à mieux vivre? Doit-elle viser l'efficacité, avoir une obligation de résultat? Débat vif et intéressant ce matin avec la psychologue Jeanne Siofachin, la journaliste de Psychologie Magazine Christy Lapelle-Edouelle et notre camarade du vendredi Guillemette Audicino. Vous publiez, Jeanne Siofachin, S'il te plaît, aide-moi à vivre, où vous plaidez pour une nouvelle psychologie. Il s'agit notamment d'une psychologie des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
La psychologie des ressources, justement, c'est une psychologie qui se veut extrêmement intégrative et justement qui ne segmente pas, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas une psychothérapie par rapport à un symptôme, qu'on n'ait pas des cases à cocher, qu'on n'ait pas des injonctions à devenir comme ci ou devenir comme ça, parce que ça, pour moi, c'est de la psychologie de surface. La psychologie des ressources, c'est effectivement pouvoir ouvrir grand le champ, c'est-à-dire qu'on a tous des ressources en nous, des ressources qui sont nos qualités, qui sont nos forces, qui sont notre passé, justement, qui sont ce à quoi on croit, qui sont finalement les talents qui sont les nôtres, les compétences qui sont les nôtres, et ces ressources-là, elles sont souvent recouvertes de couches de sédimentation très solides, dans lesquelles il va falloir aller creuser un passage pour pouvoir s'y relier. Et que la psychologie, d'une façon générale, a tendance à d'abord voir ce qui ne va pas. Ce
les difficultés.
Qui, voilà, ce qui est évidemment la cause pour laquelle les personnes ne viennent pas nous voir en disant « Waouh, je vais super bien, donc voilà, je vais vous rencontrer ». Bien sûr que les personnes qu'on rencontre sont des personnes qui sont en souffrance, mais on peut aussi décaler notre regard et aller avec le patient. C'est toujours une co-construction, c'est ça. C'est-à-dire que c'est évidemment pas un travail ni de coach, ni de case à cocher, mais une co-construction intime et profonde et engagée avec le patient lui-même pour décaler son regard et aller regarder aussi qu'est-ce qu'il en est du côté de ses propres ressources et ce qu'on a appelé classiquement les leviers thérapeutiques hein, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour donner aux patients une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de vivre.
Quels sont ces leviers ?
Ben les leviers, alors aujourd'hui il y a des ressources psychologiques qui sont validées par un certain nombre de travaux, comme par exemple l'optimisme qui est une orientation positive de l'attention. Donc comment on peut entraîner, on est tous programmés pour voir d'abord les choses qui ne vont pas. Tous, parce qu'on a une programmation qui est toujours comme les hommes préhistoriques. On peut entraîner les patients à orienter son attention vers ce qui fonctionne dans sa vie et ce qui fonctionne en soi. Ça, c'est l'optimisme. On sait aussi que le pardon, la gratitude, la bienveillance, ces fameux mots à la mode, néanmoins, ont
le
des...
Le pardon aussi.
Le pardon, absolument. Je ne l'ai pas dit ?
Si, je crois.
Ah, oui,
si, si.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut entraîner à l'attention.
Exactement, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais je voulais insister sur le pardon parce que vous revenez pas mal dans votre ouvrage sur le fait de se pardonner.
C'est quelque chose de pardonner à son passé aussi, de pardonner finalement effectivement même si on a eu des blessures, des traumatismes et on peut parler des traumatismes, eh bien on peut pardonner à la vie, on peut pardonner à ceux qui nous ont fait subir ces traumatismes parce que finalement on va où ? De quoi on a besoin ? On a besoin de se sentir vivant, on a besoin de se sentir empli de possibilités. Le traumatisme, enfin, pour revenir à la psychologie des ressources, c'est quelque chose qui dépasse, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bien sûr, ça englobe par exemple la psychologie positive qui n'a rien à voir avec la pensée positive. Il ne s'agit pas de se dire « je vais bien, tout va bien » parce que ça, c'est une fumisterie totale et c'est grave parce que ça culpabilise souvent encore plus les gens. On vous explique de A à Z comment faire pour être heureux et vous n'arrivez pas à être heureux. Non, ça ne va pas du tout, ça. Enfin, pour moi, ça ne va pas du tout. Donc, mais la psychologie positive, qui est une psychologie scientifique, vient valider quels sont finalement les ingrédients qui nous permettent d'aller mieux et comment on pourrait effectivement mettre cette dynamique de ce côté-là. Donc ça, c'est important, mais ça ne se réduit surtout pas à la psychologie positive.
Christina Pelédoile de Psychologie Magazine.
Oui, en fait, vous plaidez pour un syncrétisme des psychologies et donc pour la psychologie intégrative.
Absolument.
Ce pourquoi vous plaidez n'a rien de véritablement très nouveau. La psychologie intégrative.
Qu'est-ce que c'est la psychologie intégrative ?
Existe depuis plus de 30 ans maintenant, la psychologie intégrative, je vais laisser à Jeanne Siofachin, qui est la psy de l'émission, le soin de définir, mais la psychologie intégrative en gros est une psychologie, une méthode qui permet de s'appuyer en effet sur différentes conceptions et différentes approches pour permettre en effet aux patients d'utiliser des techniques et des ressources qui lui permettent plus large que simplement une psychothérapie analytique en face à face ou simplement les TCC, de manière à pouvoir embrasser un certain nombre de techniques qui vont lui permettre de remettre en route une dynamique psychologique.
Jeanne Siofachin.
Oui, alors évidemment, merci beaucoup. Il y a évidemment cette dimension, c'est-à-dire que moi, je plaide vraiment pour que les psys soient formés à une série d'approches et de compréhension et d'angles d'approche, effectivement, de la personne humaine, hein, de la personnalité, de façon à avoir un peu comme un peintre et un impressionniste, une palette avec laquelle on va faire chaque fois un tableau unique, parce que chaque être humain est unique et il n'y a pas de recette et de façon de faire toute faite pour l'ensemble des êtres humains, on est tous complexes et c'est très important, même si alors, quand on dit que c'est pas nouveau c'est pas nouveau dans les écrits, dans les réflexions,
dans les pratiques,
il me semble que ce qui est absolument essentiel c'est que ça soit une obligation cette psychologie intégrative et qu'on ne peut, on peut pas voir un patient uniquement avec un petit bout de lorgnette. Et la deuxième chose, quand même, par rapport à la psychologie intégrative, c'est aussi intégrer toutes les composantes de quelqu'un, c'est-à-dire le cognitif, l'intellectuel, les émotions, la façon de fonctionner, le comportement, le corps. C'est-à-dire que c'est ça aussi la psychologie intégrative.
Vous pouvez nous donner un exemple concret de psychologie intégrative ?
C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter uniquement à ce que pense la personne, mais on va essayer de travailler aussi sur les émotions qui vont être derrière. On va par exemple à un moment être plutôt dans l'accueil et l'empathie et la compréhension autour d'un événement du passé qui est particulièrement sensible et on va essayer de voir comment on peut un peu peu comme une mayonnaise. Comment on peut utiliser d'une certaine façon ou incorporer cet élément du passé pour construire un édifice de vie dans lequel le patient se sente plus confortable? On va éventuellement à un autre moment se servir d'une thérapie plus justement cognitive pour apporter des éléments de compréhension au patient. C'est-à-dire qu'on va, c'est une création en fait, c'est une co-création constante avec le patient.
Alors vous plaidez pour un engagement plus fort des thérapeutes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
C'est-à-dire que moi je trouve que quand même, moi je travaille avec beaucoup de psy autour de moi, hein, parce qu'on travaille avec des grosses équipes et puis chez tous les psys que j'ai rencontrés, bien sûr que les psys sont engagés, parce que sinon on ne fait pas ce métier. Mais après, il y a engagement et engagement. Pour moi, l'engagement, c'est vraiment, je réutilise cette expression, c'est vraiment un engagement corps et âme. C'est-à-dire que d'avoir en permanence dans la tête que ce patient, une fois encore, qu'il ait 5 ans ou 95 ans, il est en souffrance, il a besoin qu'on l'aide et qu'on va lui donner très fort la main et on ne va pas le lâcher jusqu'à ce que ce patient-là ait la sensation ou la conviction, et qu'on puisse observer ensemble que les choses vont mieux. C'est-à-dire d'avoir finalement ancré au creux de soi, comme vous le disiez en introduction, cette culture du résultat. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans tous les métiers, vous faites une émission, vous avez besoin que votre émission, il y ait des auditeurs. Vous allez chez un médecin, vous avez besoin d'être guéri. Vous allez chez votre cordonnier, vous avez besoin que vos chaussures soient réparées. Idem pour le garagiste, idem pour tous les métiers. Pourquoi la psychologie serait exclue de cette obligation de résultat? Une obligation de résultat, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un avant et un après avec une grille, mais en tout cas que l'intention que le patient aille mieux, nous habite constamment et qu'on dit pas « Ah bah oui, ben on se revoit la semaine prochaine, on se revoit la semaine prochaine » et on attend, parce que c'est la résistance du patient, parce que il faut du temps, parce que...
Mais Jeanne Siofachin, les médecins ont une obligation de moyens, pas de résultats.
Bien sûr.
Et pourquoi les psychologues, la psychologie en général, devrait-elle avoir une culture de résultats?
Non, mais alors l'obligation de moyens des médecins, c'est effectivement dans leur code de déontologie. Mais enfin, moi j'ai rarement rencontré un médecin qui ne se sente pas intimement équipé d'une obligation, enfin d'une obligation, d'une intention, une obligation, le mot est trop fort, mais d'une intention de résultat. Sinon, ça peut pas fonctionner.
Avec cette idée de résultat que vous défendez, est-ce qu'on n'en viendrait pas à une psychologie, un concept, une vision purement utilitariste, hein, consumériste de la psy, c'est-à-dire que je vais chez les psys, je vais voir un psy parce que je veux en effet obtenir un résultat. Et c'est un peu ça dont nous crevons tous, à cette idée de devoir obtenir quelque chose là, maintenant. Je ne vais pas bien, je vais chez le psy, je veux qu'il me permette d'aller mieux. Or, on sait quand même que la psyché, et vous êtes bien placé pour le savoir, est une chose qui n'est pas si simple, qui échappe souvent à nous-mêmes, y compris. Et donc, je vois mal comment peuvent cohabiter l'idée de résultat et l'idée de travail psychothérapeutique.
Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout que vous puissiez avoir cette position. Et c'est justement une posture totalement inverse que je défends, là, pour le coup, pour laquelle je plaide avec engagement. C'est que, oui, je pense que quand on va voir un psy, on ne va pas bien, ou on ne va pas suffisamment bien, ou on peut être en très grande souffrance, et on a besoin de sentir que le psy est là pour nous permettre d'aller mieux. Et ce n'est pas une question d'avoir une obligation de résultat comme les coachs, par exemple, avec des objectifs où il faudrait toper toutes les cases. Franchement, ça, c'est pas de la psychologie, c'est de la psychologie de comptoir.
Et comment on mesure les résultats d'ailleurs? Comment on les mesure?
Mais comment ça?
Comment on mesure les résultats?
Je suis désolée, Annie.
Comment on les mesure, ces résultats, Jeanne Siofachin?
Mais comment on mesure les résultats? Comment on mesure? On les mesure pas d'ailleurs. Et moi, je parle pas de mesure. Je suis pas ni une scientologue ni une scientifique. Je ne mesure rien. Je vois bien quand un enfant est complètement en échec et en difficulté et en souffrance et que rien ne va plus, et quand tout d'un coup il sourit, qu'il va à l'école, qu'il a des copains et qu'il va mieux. Je vois bien quand un patient est totalement déprimé et que sa vie est un pur chantier et que il a repris un chemin plus lumineux. Enfin, je veux dire, c'est ça, aller mieux, c'est par rapport à sa vie.
Oui, oui, certes, mais c'est vrai que je trouve ça en fait passionnant, au-delà même de la notion de bataille entre les différentes méthodes ou de fusion complète de toutes les méthodes. C'est que là, on interroge en fait, c'est quoi aider son prochain? Est-ce qu'on peut guérir son prochain? Et d'abord, c'est quoi la guérison? Surtout quand il s'agit
alors, la guérison, d'une vie. Alors justement, la guérison, j'en parle dans mon livre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la définition des Chinois, parce que guérir, c'est aller dans le sens du vent. Et aller dans le sens du vent, c'est être dans le sens de sa vie. Et moi, je crois que mon métier, c'est de mettre les gens dans le sens de leur vie. Et que chaque vie est unique. Et que chaque façon dont on va approcher cette fameuse guérison, parce que guérison, finalement, guérir de quoi? Guérir pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire guérir? Mais là, on aura un débat hyper philosophique, faudra recommencer. Mais en tout cas,
c'est aller dans le sens. C'est les thématiques qu'on touche.
Mais bien sûr, mais c'est des thématiques hyper importantes. Je pense que guérir, c'est se sentir dans le sens de sa vie, de sa propre vie, qui que l'on soit. Et quelle que soit cette vie, il n'y a pas une bonne vie. Il n'y a pas une mauvaise vie. On peut pas, on n'a pas ces échelles-là. Il y a pas, et puis il n'y a pas des grands livres du bien et du mal, où ça c'est bien, ça c'est mal. Et moi, je trouve que les gens doivent s'emparer de la psychologie aussi. Je trouve que notre job, c'est de transmettre, c'est de partager. Moi, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire aussi dans ce livre. C'est-à-dire faire aussi sortir un peu la psychologie, et ce que fait très bien Psychologie Magazine, d'ailleurs. non, mais voyons, ça peut être sympa. Mais en tout cas, dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est ça. C'est aussi transmettre et donner aux gens les moyens de s'emparer de la psychologie.
Merci beaucoup, Jeanne Siofachin. On peut lire avec profit. On se fera son propre débat intérieur en lisant « S'il te plaît, aide-moi à vivre ». C'est publié chez Odile Jacob. Merci d'être venue, Jeanne Siofachin.
Merci beaucoup.
Lundi, dans notre émission En Santé, nous attendons toutes vos questions sur le rein, un organe méconnu, indispensable à notre bonne santé. Nous verrons quel est son fonctionnement, quelles sont les grandes pathologies du rein, comment repérer son mauvais fonctionnement, comment en prendre soin. Toutes vos questions sur le rein au standard de France Inter, 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand-Mère vous fasse et l'appli France Inter.